Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international sur France Culture, une émission préparée ce matin par Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Marc Olery, dont Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Leu. Dernier temps de cette série durant laquelle nous avons choisi de nous attarder sur les conséquences intérieures de quatre pays particulièrement concernés par la crise de la Covid, après avoir parlé des États-Unis, de la Russie et du Brésil, place à l'Inde.
À partir de minuit aujourd'hui, le pays tout entier sera en confinement total. Pour sauver chaque Indien et pour vous sauver, vous et votre famille, à partir de minuit ce soir, il y aura une interdiction totale de sortir de chez vous.
Dans les régions qui ne sont pas devenues des foyers épidémiques et dans celles qui ont peu de chances de le devenir, des activités importantes seront autorisées et le confinement allégé, et ce, à partir du 20 avril.
Plusieurs secteurs du pays et de l'économie bénéficieront d'un soutien de 266 milliards de dollars.
Le 24 mars dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi décrétait le confinement pour plus de 1,3 milliard de citoyens de son pays. Une décision prise sans consultation avec les différents États de l'Union qui avaient jeté des millions de travailleurs précaires sur les routes, contraints de quitter les villes pour regagner leur village. Et puis, il avait ensuite décidé de la prolongation du confinement, de sorte que le déconfinement initialement prévu pour le 17 mai n'aura finalement pas lieu avant la fin du mois. S'il flotte des incertitudes quant à la réalité du bilan sanitaire, le gouvernement s'employant à atténuer l'ampleur de l'épidémie, les conséquences économiques de l'arrêt de l'activité sont, elles, déjà sans appel. En effet, le sous-continent, qui traversait déjà une période de ralentissement de sa croissance, est sérieusement fragilisé. Et le Premier ministre indien en a pleinement conscience, puisqu'il a déjà annoncé des mesures très importantes censées remettre le pays sur les rails. Alors, quel est le plan de Modi pour relancer la machine économique et éviter le désastre sanitaire et social? Comment prévoit-il de profiter de la crise du coronavirus pour mettre son pays sur la voie de l'indépendance et de l'autosuffisance, pour reprendre ses mots? Son action politique depuis son arrivée en 2014 est-elle en phase avec cette ambition? Quels seront les gagnants et les perdants de son projet politique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Christophe Jaffrelot. Bonjour Christophe Jaffrelot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po du CNRS et vous aviez publié il y a quelques mois maintenant l'Inde contemporaine de 1990 à aujourd'hui, qui était paru aux éditions Pluriel. Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, vous auteur de plusieurs ouvrages, je vais en citer deux, l'Inde ancienne au chevet de nos politiques et puis l'Inde pour les nuls. Peut-être pourrons-nous commencer, je vais me tourner vers vous pour commencer, Christophe Jaffrelot, sur la situation sanitaire. On enregistre aujourd'hui en Inde officiellement 3300 décès pour un peu plus de 100 000 cas, un peu plus de 106 000 cas, je crois. Comme pour tous les pays, disons-le, Christophe Jaffrelot, il y a évidemment des interrogations quant à la fiabilité de ces chiffres. On a une toute petite idée de l'ampleur, justement, de ce décalage entre les chiffres et la réalité du terrain, Christophe Jaffrelot?
C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire pour une autre raison, c'est que l'Inde effectue très peu de tests. Et même parfois diminue le nombre de tests, enfin de tests de dépistage pour parler, non pas franglais mais français. Et ces tests de dépistage, c'est la seule façon pour nous de savoir quelle est véritablement l'ampleur de l'épidémie. Il y a deux choses que l'on peut tout de même dire de ce point de vue, c'est que l'Inde n'a pas encore infléchi de façon significative la courbe, ce qui veut dire que le nombre de cas d'infection continue de doubler tous les 8-9 jours, et que du coup, si la courbe se continue, se poursuit, on va atteindre des niveaux tels que les hôpitaux ne seront plus en mesure de faire face, et c'est déjà le cas à Bombay d'ailleurs, ça c'est évident. Et l'autre chose que l'on sait aussi, c'est que en gros, on a 4 à 5% des personnes testées qui se révèlent contaminées. Si on extrapole sur cette base, on arrive à quelque chose comme, disons, 40 millions de personnes qui pourraient être infectées. Hein. Si on considère que il y a 5% de ces 40 millions qui devront être hospitalisés, on voit l'énorme défi auquel va devoir faire le système sanitaire indien, car l'hôpital public, on y reviendra, est le parent pauvre de cette république. On a 700 000 lits d'hôpitaux, ça veut dire quelque chose comme 0,7 lits par millier d'habitants, quand la Chine est à 4, le Brésil à 2. Et là, évidemment, c'est encore pire pour ce qui concerne les soins intensifs, puisqu'on a seulement 770 000 lits qui sont dans ce domaine. Donc, c'est deux choses que l'on peut dire. Au-delà, vous avez soulevé en quelque sorte un problème insoluble, la réalité de l'épidémie sera très difficile à mesurer.
On reviendra évidemment, hein, Christophe Jaffrelot, sur cette situation sanitaire et les difficultés du système hospitalier indien, je devrais dire même des systèmes hospitaliers indiens, parce qu'on va voir qu'il y a énormément de disparités, énormément de différences entre le système public et le système privé, mais on y reviendra. Christophe Jaffrelot, la grande information qui nous vient du côté de l'Inde ces derniers jours, c'est cette annonce dont on a diffusé un extrait tout à l'heure de Narendra Modi avec ce nouveau train de mesures pour relancer l'économie, parce que c'est évidemment déjà un problème d'actualité du côté de l'Inde. L'arrêt de l'activité a déjà des conséquences sociales très importantes. 20 000 milliards de roupies, l'équivalent de 10% du PIB national, a expliqué le Premier ministre dans son allocation, qui était un petit peu surprise, en tout cas un peu on ne l'attendait pas. De quoi, disait-il, atténuer les conséquences dévastatrices du confinement qui a fait perdre leur emploi à des millions de personnes et pousser des milliers d'entreprises au bord de la faillite. Jean-Joseph Boileau, vous qui êtes économiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le contenu de ce plan et nous dire s'il vous semble à la hauteur de l'enjeu ?
Écoutez, de l'avis de tous les experts qui ont épluché cette annonce, nous avons en réalité un effet tout à fait typique de la tragédie comédie de Modi. Il y a dans ce package de 20 000 milliards, comme vous le dites, et alors son discours, si j'ai bon souvenir, du 12 mai, il a répété 10 000 fois qu'il fallait effectivement agir, agir, agir. En réalité, selon tous les experts, quels que soient les services économiques d'experts, on a en gros 0,8%. La fourchette est de 0,7 à 1,3% du produit intérieur brut en termes de véritable relance ou plan de stimulation.
Donc on est très loin des 10% du PIB national annoncé par Modi, c'était effectivement le 12 mai dernier.
C'est caractéristique des régimes populistes, et on le voit d'ailleurs dans la vidéo exceptionnelle qui a été postée sur Facebook, quand il répète ce chiffre et qu'il dit même 80 000 milliards pour le Cachemire. En réalité, il y a une toute petite partie donc en termes de stimulus financier. Le reste, ce sont des possibilités offertes d'emprunt dans les banques. Et pour l'essentiel, j'ai regardé le programme des 150 mesures à peu près annoncées, regroupées en 23 chapitres. Il s'agit essentiellement d'annonces qui n'ont pas de logistique, comme le dit un grand patron indien, « no data and no logistics ». Il n'y a en réalité qu'un effet d'annonce et très très peu sur le plan de la stimulation de l'économie. Mmh. Il y a surtout, et je voudrais insister là-dessus, une inversion complète entre ce qui serait répondre à l'urgence. Alors, il y a une urgence sanitaire, mais on est tous d'accord pour dire que pour l'instant, c'est une urgence sociale et économique. C'est une tragédie en Inde aujourd'hui, du point de vue des centaines de milliers de migrants, des millions en réalité à l'échelle du pays qui n'ont pas à manger. 90% des migrants interrogés la semaine dernière ont dit qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc ce plan de relance ne répond pas du tout à la question de l'urgence et du court terme, Inversement, et on y reviendra tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire une sorte de blitzkrieg, l'annonce d'une véritable tournant dans la politique économique de type thatchérienne ou reaganienne, comme on voudra, et qui, elle, est très inquiétante.
Alors, justement, Christophe Jaffrelot, peut-être je voudrais vous entendre également sur ce plan de relance. Jean-Joseph Boileau nous dit, en réalité, il n'est absolument pas à la hauteur de ce qui est annoncé, et on a de la communication politique avant un véritable geste de politique économique. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce plan-là? Au fond, on est dans de la communication et pas dans un vrai plan de relance à la hauteur de l'enjeu. Par ailleurs, sur ce que disait également Jean-Joseph Boileau, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait un changement de logiciel dans le système de développement du pays. Et qu'en est-il réellement? Et puis, là où je voudrais vous emmener aussi, c'est sur la popularité de Modi, qui continue d'être importante, voire même, selon certaines études, elle aurait augmenté ces dernières semaines, suggérant que finalement les citoyens indiens seraient plutôt satisfaits de la gestion de la crise par Modi. Alors il faudrait essayer peut-être de regarder comment on peut comprendre cela. Christophe Jaffrelot.
Oui, les questions sont liées effectivement, et la première et la troisième, je dirais, dans ce que vous énoncez, le sont particulièrement. Effet d'annonce, grand communicant politique, oui, et la popularité sur laquelle vous terminez s'explique par là. C'est effectivement difficile à comprendre. Vous me demandez d'expliquer ce qui est sans doute le plus difficile à comprendre. C'est la capacité d'un leader politique à échapper à ce qu'en anglais on appelle l'accountability, hein, le fait qu'on est responsable de ses politiques publiques vis-à-vis de ses citoyens. Modi échappe à l'accountability. Il est rentré dans une espèce de sphère, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, qu'on peut dire sidérante de symboles, d'émotions qui lui permet de passer à travers les mailles du filet. Alors, c'est lié à ses talents de communicant, c'est aussi lié au fait qu'il ne donne jamais une conférence de presse, on ne peut jamais lui poser une question qui dérange. Les chaînes de télévision privées et publiques, bien sûr, lui sont totalement acquises et font dans la désinformation, et puis détournent l'attention, notamment en utilisant la minorité musulmane comme bouc émissaire et en continuant finalement à surfer sur cette xénophobie qui permet de parler d'autre chose. Alors, ceci dit, et c'est votre question intermédiaire, la question du milieu, est-ce que véritablement on change de logiciel et est-ce que derrière les effets d'annonce, il n'y a pas quand même des inflexions structurelles? C'est là où il peut y avoir un écran de fumée qui finit par, une fois qu'il se dissipe, nous révéler une Inde autre. Il y a deux choses là sur ce terrain qui me paraissent particulièrement importantes. C'est d'abord la façon dont le droit du travail est remis en cause dans tous les États dirigés par le parti du Premier ministre, le BJP, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, donc des grands États, qui mettent à bas les lois qui protègent les ouvriers ou les travailleurs en général. Et puis il y a une deuxième chose qui a été répétée, martelée par Modi dans son discours, c'est le retour à l'autosuffisance. Cette idée qu'il fallait que maintenant l'Inde, marche sur ses deux jambes, comme dirait le président Mao Tse-tung à la haute époque. Hein. C'est évidemment une idée qui est ancienne en Inde, puisque tout le mode de développement autocentré que Nehru avait promu ne visait à rien d'autre qu'à assurer ce genre d'autosuffisance. Là où l'Inde, aujourd'hui, est comme en porte-à-faux avec cette optique, c'est qu'elle dépend énormément, tout de même, de l'international, et qu'elle cherche, c'était d'ailleurs le plan Make in India de Modi des années récentes, à attirer des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, l'Inde ne cherche qu'une chose, c'est attirer ceux qui quittent la Chine pour réinvestir en Inde ou ailleurs. Donc on est dans une situation tout de même assez paradoxale où on cherche à se replier sur soi tout en ayant besoin des autres et on retrouve tout de même ce qui fait la marque de fabrique des national-populistes, oui. Un sentiment d'incohérence que la communication ne pourra peut-être pas éternellement masquer. Et je termine juste par une phrase, Modi joue véritablement avec le jeu, avec le feu, en étant à ce point dans la communication et seul dans la communication. On voit des migrants qui commencent à se soulever, se mobiliser, casser des symboles de la puissance publique, comme des bus ou des bureaux de poste. Il est certain que la crise sociale, en s'intensifiant, met à mal les seuls pétales de rose qu'on a déversés sur les hôpitaux. Ça, c'était un autre symbole.
On reviendra évidemment sur ce point-là. Jean-Joseph Boileau, je vais vous faire faire, puisque vous êtes économiste, le travail de bilan économique de Modi. Mais avant cela, sur la question que je posais à Christophe Jaffrelot, de savoir comment on comprend ce paradoxe qui est d'un côté une réponse de Modi qui semble absolument pas à la hauteur d'après ce que disent la grande majorité des observateurs, et de l'autre côté, eh bien, une popularité qui, malgré tout, est bonne, voire même a carrément augmenté. Essayons de comprendre cela. Et tout à l'heure, Christophe Jaffrelot disait « Modi échappe à l'accountability ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison qu'on pourrait aller chercher du côté de l'opposition ? Je disais hier le site d'information indien The Print qui s'interrogeait sur la faiblesse de l'opposition et qui disait en somme, en gros, la grande force de Modi, c'est qu'il a des opposants extrêmement faibles et qui s'interrogeait notamment pour autour du fait que Rahul Gandhi, donc qui est le chef de file de l'opposition, avait attendu 50 jours pour aller à la rencontre des travailleurs migrants qui ont été jetés sur les routes au début du confinement, alors même qu'ils sont un sujet, un enjeu politique majeur, dont il aurait dû s'emparer immédiatement. Est-ce que finalement la grande force de Modi, c'est pas la faiblesse de ses opposants ?
Alors, sur la popularité de Modi, je ne suis pas sûr. Je regarde notamment comment il a été réélu en 2019. On n'a pas ce raz-de-marée caractéristique des régimes populistes qui, dans les années 30, ont progressivement pris le pouvoir avec de véritables votes plébiscitaires, 60-70% des voix. On a encore aujourd'hui, sur le plan électoral, un socle de 30-35% et je n'ai pas vu l'élargissement de ce socle électoral. Il y a par contre, effectivement, quand il est à New Delhi, quand il prend la voix sur les ondes pan-indiennes, etc., un homme qui gesticule, qui séduit, qui a la force des formules chocs. Mais quand on regarde la résistance très importante en Inde, ce n'est pas parce que nous n'avons pas un leader charismatique au centre que nous n'avons pas des milliers, des millions de petites révoltes de résistants. Je vais en prendre deux. Premièrement, si l'Inde a tenu le choc de cette tragédie, c'est par la mobilisation massive de toute la société civile qui a organisé des soupes populaires, des hébergements, etc., etc. Et puis, vous avez également, dans le monde patronal, c'est très intéressant, une résistance considérable qui est ressortie juste après l'annonce par Modi de ce fameux plan. C'est par exemple Azim Premji, qui est le grand patron des sociétés de Haïti, la société Wipro, et qui dit le problème de la législation du travail, enfin la législation du travail n'est pas un problème dans notre pays, fondamentalement, les top contraintes, hein, les contraintes majeures, c'est une administration déficiente, c'est une mauvaise logistique, etc. Il a été repris par un autre grand patron très connu, le groupe Bajaj, qui est le fameux deux roues de la moto, le scooter. Rajiv, qui a repris donc le business de son père, a eu également un discours extrêmement dur contre Narendra Modi. Sa popularité, et c'est en ce sens que ce plan a une composante politique très très importante, a consisté à séduire et à donner surtout tout un ensemble d'avantages à ce qu'on appelle le petit business, les castes d'affaires, ce qu'on appelle les banias, qui jusqu'à présent avaient été assez déçus par le bilan économique de Narendra Modi. Hein. Son bilan économique a été mauvais. Il y avait un retournement économique depuis 18 mois qui était très très perceptible. Et lorsque j'étais sur le terrain en octobre-novembre, je n'entendais de la part du patronat indien que des plaintes. Et donc ce plan a consisté finalement, plutôt que à répondre aux défis de court terme, a donné à l'ensemble de cette classe, qui pèse quand même 15 à 20% du monde indien, donc c'est assez important, des signes tangibles que ce qu'on appelle le laisser-faire, eh bien maintenant, sur le plan de la législation du travail et sur le plan surtout environnemental, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, dans le secteur des mines, du charbon, on a une véritable, un véritable démantèlement de tout ce qui était l'infrastructure mise en place par le régime du Parti du Congrès. Donc, populaire, non, je suis pas certain. Résistance, je pense qu'elles sont là. Par contre, effectivement, il n'y a pas au centre, hein, au sens du gouvernement central. Je termine par le Kerala, parce que, évidemment, dans les résistances, il y a les États. Tout le monde est bien d'accord pour dire que s'il y a bien un modèle à l'échelle mondiale qui a pas mal fonctionné, c'est l'État du Kerala. Et c'est précisément un État qui est contre Modi.
Et, qui est à gauche, même plutôt bien à gauche.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça. La tradition communiste indienne, c'est si ça. Vous voulez. Mmh. Hein. Mmh. Et le bilan du Kerala est absolument exceptionnel, c'est évident. Donc, je pense qu'il ne faut pas considérer qu'on a, pour l'instant en tout cas, un dirigeant populiste qui peut, comme ça, aujourd'hui, régner sur l'ensemble de l'Inde. On a encore une société civile, y compris donc dans le business, comme je vous l'ai dit, qui résiste, mais qui travaille au jour le jour, qui innove. Et simplement, ce que Modi essaye de faire, c'est par des... Alors, c'est des chocs, hein. Il avait fait la démonétisation de la roupie, tout le monde s'en rappelle, qui a été un désastre. Eh bien là, son discours ressemble un peu à la méthode qu'il a utilisée pour la démonétisation. Du jour au lendemain, sans discuter avec les uns et les autres, donc c'était le 24 mars, il dit, voilà, je vais confiner toute l'Inde. Ce qui est la pire des mesures qu'il fallait prendre, bien évidemment.
Alors, justement, Christophe Jaffrelot, et puis ensuite, on en viendra à la question des violences anti-musulmans que vous évoquiez tout à l'heure, qui était aussi évidemment un enjeu très important. Mais pour revenir un tout petit peu sur ce plan-là et sur cette décision, effectivement, de confiner l'ensemble du pays sans discuter, prévenir les États, les gouverneurs, on prend cette décision de façon totalement unilatérale. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Jaffrelot? Est-ce que finalement c'est normal, c'était son rôle, c'était sa responsabilité, ou ça révèle aussi peut-être d'abord une concentration du pouvoir et puis une forme de fracture entre l'État, l'échelon fédéral et puis les États?
Tout à fait. En fait, on voit bien là le continuum qu'il y a entre national-populisme et autoritarisme. Et d'ailleurs, il faut revenir sur ce que le populiste fait. Le populiste ne remporte pas d'élection sur la base de raz-de-marée. On regarde Bolsonaro, Trump, Netanyahu, c'est Erdogan. Ce sont des gens qui polarisent. Et qui polarisent la société, en multipliant les provocations d'ailleurs, de telle sorte qu'il se constitue un socle de soutien assez inaltérable. Ils ne descendent pas en dessous d'un étiage qui est assez haut, quoi qu'ils fassent. Et c'est ça qui est surprenant, et c'est en ça que je dis qu'il y a une capacité à échapper à la accountability. Parce qu'ils jouent sur d'autres choses. Ils jouent sur les émotions, ils jouent sur la peur, ils jouent sur un autre point qu'il faut maintenant aborder, l'autorité. Si l'opposition est si faible en Inde, c'est pas seulement parce que son leader n'est pas assez charismatique, c'est que les opposants ont peur. Et ils ont peur parce que certains ont été en prison, l'ancien ministre des Finances, Chidambaram, a quand même passé plusieurs mois en prison. Ils ont peur parce qu'il y a des redressements fiscaux, des contrôles fiscaux qui peuvent mettre toute une famille, une entreprise en difficulté. Et puis, si le bâton ne fonctionne pas, eh bien, on utilisera la carotte et alors là, on achètera les voix. Combien de gouvernements d'État sont tombés et sont passés du Congrès au BJP parce qu'on a acheté les députés qui manquaient pour refaire une majorité. Tout récemment, le Madhya Pradesh. Il y a quelques mois, le Karnataka. Donc, on a là les symptômes d'une transition du populisme à l'autoritarisme qui fait qu'en fait, l'opposition n'est pas seulement faible, elle est surtout affaiblie. Et dans un contexte où, en plus de cela, il y a un discours qui est devenu quasiment hégémonique, qui est le discours nationaliste hindou, qui fait que l'on n'ose plus parler de sécularisme et que même des leaders politiques comme Kejriwal, qui dirige l'État de Delhi, qui se sont fait un nom sur le thème du sécularisme notamment, eh bien, sont rentrés en quelque sorte dans leur rang. Alors, ceci amène à la dernière question que vous posez, qui est très importante, qui est effectivement celle de la relation entre le centre et les États. Un des éléments de cet autoritarisme, c'est la centralisation du pouvoir. C'est ce qu'on avait vu déjà avec la démonétisation, par parenthèse un désastre effectivement, mais qui n'a pas été sanctionné dans les urnes. C'est tout à fait intéressant et révélateur. Je pense que l'un des héritages de la crise actuelle, ce sera une exacerbation des tensions entre le centre et les États. Autant le prédécesseur de Modi avait pris la peine, Manmohan Singh, de consulter lors de l'épidémie du SRAS, qu'on a oublié, mais qui en 2009 avait frappé l'Inde, tous les responsables d'État, autant Modi s'est, pour commencer, donné dans la verticale du pouvoir. Aujourd'hui, il change un peu, mais quand même, certains États sont dans son collimateur, ceux qui sont dirigés par l'opposition, bien sûr, et du coup, le fédéralisme indien souffre énormément.
Jean-Joseph Boileau, parce que je sais que c'est un point sur lequel vous aurez envie d'intervenir, cette question de la fracture entre les marges et le centre, et puis ensuite on en viendra aux tensions, voire même carrément aux violences contre les musulmans, comme je l'évoquais, qui sont évidemment un point essentiel. Mais sur le fédéralisme, Jean-Joseph Boileau, sur cette concentration du pouvoir et cette fracture entre le centre et les marges.
Écoutez, ce qui est, moi, je trouve extrêmement important à comprendre dans le modèle indien que je décris dans les livres que vous avez cités, c'est que à la différence de la Chine, vous avez un empereur qui lui dispose de tout un ensemble d'une mécanique extraordinaire de relais jusqu'aux citoyens de base, le fameux comité d'immeubles, de quartiers. En Inde, on a affaire en réalité à une sorte d'empereur qui est tout nu au centre. Et c'est la raison pour laquelle Modi a besoin de jouer autant dans ses discours sur les effets de manche, etc., etc. La société indienne vit dans un autre monde. Vous avez Delhi, c'est très bien. Je parle de Delhi, non pas Kejriwal, c'est-à-dire la ville de Delhi, mais le gouvernement fédéral à Delhi, qui dispose de quasiment aucun relais administratif, politique dans le reste du pays, de sorte que vous avez des États qui soutiennent effectivement fortement Modi, notamment le Uttar Pradesh. C'était une prise essentielle derrière l'opération choc de la démonétisation en novembre 2016, juste avant les élections dans cet État-là. Mais il faut voir ce que je disais tout à l'heure. Le reste de la société indienne a une capacité de résistance, d'autonomie qui est considérable. Le meilleur exemple, il décrète un confinement général, vous l'avez repris son appel du 24 mars. Le jour même, vous avez dans toute l'Inde des centaines de milliers, des millions d'Indiens qui en réalité sortent, vont sur les routes, veulent rentrer dans leur village, etc. Je dirais d'une certaine façon, ils n'en font qu'un peu à leur volonté. Dernier élément, le problème majeur...
Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de rentrer chez eux. Ils sont rentrés chez eux, dans leur village.
Non, on leur a pas dit de rentrer chez eux. On leur a dit, vous êtes confinés. Vous êtes confinés.
On leur a dit, restez à la maison. Ils ont compris, on rentre au village.
Oh, ils n'ont pas compris ça. Ils savent surtout que dans les fameux slums, par exemple, de Bombay, où vous avez 6 millions de personnes qui vivent, plus d'un million sont repartis parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient plus de travail. Les patrons indiens, du jour au lendemain, ont arrêté de payer leurs salariés. Je voulais juste insister sur quelque chose. L'échec de la mise en œuvre des différentes mesures, des monétisations, là ici, la gestion du Covid, et la législation du travail, également d'une façon plus générale, tient précisément à ce défaut fondamental d'administration en Inde. Plus on va vers le village et plus on peut administrer, plus vous allez vers le gouvernement fédéral et moins il a de relais. Il a, en fait, il trône sur une bureaucratie qui est très connue, qui est la risée de tout le monde, les fameux babous, et qui ont une incapacité à faire fonctionner la société indienne et son économie.
Jean-Joseph Boileau, on va revenir sur et la question sanitaire et la question des travailleurs migrants. Vous évoquiez dans deux échanges que nous allons avoir dans les minutes qui viennent avec Marine Al-Dadad et David Pichrit. Mais avant, je veux absolument qu'on évoque la question des violences contre les musulmans, parce que avant que l'Inde ne bascule dans ce confinement, le pays traversait une crise majeure avec des manifestations régulières, plusieurs jours de manifestations qui ont fait des dizaines de morts, et en particulier à Delhi. Retour justement sur ces violences.
Regardez, tout est détruit. Je ne sais pas qui nous a attaqués. Mais ils chantaient des slogans hindous comme « Vive le dieu Ram » et « Vive Shiva ». Je ne les avais jamais vus avant. Ils n'étaient pas du quartier.
La police est du côté des hindous. Ils nous jettent des pierres et la police fait pareil. Quand notre député a essayé d'appeler le chef de la police de Delhi pour demander de l'aide, personne ne lui a répondu. Résultat, notre mosquée a été brûlée et les gens tabassés, parfois à mort.
Les relations entre hindous et musulmans ne seront plus jamais les mêmes. Il n'y a que le gouvernement qui puisse agir, mais ils doivent être très durs et punir les responsables pour que ça n'arrive plus.
Ce sont les musulmans qui nous attaquent. Nous, on ne fait que se défendre. On est plus d'un milliard, donc si on les persécutait vraiment, on pourrait les exterminer.
Voilà, des témoignages qui avaient été recueillis par France 24 au mois de février, des musulmans qui avaient été la cible de groupes radicaux hindouistes, qui descendaient dans les quartiers armés de barres de fer, de pierres et autres pistolets, qui tapaient sur tout ce qui bougeait, qui brûlaient les commerces, qui incendiaient une mosquée. Et face à ces expéditions punitives, la police qui ne semblait pas particulièrement empressée à s'interposer. Christophe Jaffrelot, où est-ce qu'on en est depuis? Est-ce que finalement la Covid a au moins eu l'effet de stopper toutes ces violences à l'égard des musulmans, ou au contraire, est-ce qu'il faut craindre que cette crise sanitaire n'ouvre la voie vers un nouveau cycle de violence? Christophe Jaffrelot.
Il y a une transformation, en quelque sorte, de ces violences. Effectivement, ce sont des violences physiques jusqu'en février 2020, qui s'inscrivent, comme vous le disiez, dans une perspective nouvelle, puisque en décembre 2019, l'Inde vote une loi qui réserve l'accès à la citoyenneté indienne aux réfugiés du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan qui ne sont pas musulmans. Les non-musulmans sont éligibles à la citoyenneté indienne, pas les autres. Et donc on est en train de passer de ce que j'appelle une démocratie ethnique de fait à une démocratie ethnique de droit. Ça suscite des manifestations, des mobilisations qui ont pour effet en boomerang d'attiser les tensions à Delhi, où l'émeute dont votre reportage parle fera une cinquantaine de morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Ça n'a plus cours. En quelque sorte, la crise du Covid a éteint cet incendie-là. Mais ce que l'on voit par ailleurs, c'est que on utilise les musulmans comme des boucs émissaires, considérant que c'est eux qui ont propagé l'épidémie suite à un rassemblement d'un des mouvements, le Tablighi Jamaat à Delhi. On ne s'occupe pas des rassemblements religieux qui sont hindous par ailleurs. Et ce que l'on voit aussi dans cette même perspective de désigner le musulman comme bouc émissaire, c'est qu'on cherche à le boycotter au plan économique. Donc les marchands musulmans font l'objet d'un boycott plus systématique. Et on leur interdit l'accès à certains villages. Vous avez des villages qui se hérissent de panneaux indiquant que les musulmans ne sont pas les bienvenus. Des quartiers de certaines villes qui aussi se ferment aux musulmans. Alors, ça a pris du coup sur les réseaux sociaux en particulier, la forme d'une diabolisation, en quelque sorte, on a déshumanisé certains musulmans par l'image, et cela a suscité, c'est le point le plus important à mes yeux, une réaction inédite des pays arabes, les pays arabes dont l'Inde dépend de plus en plus, puisque l'Arabie Saoudite, depuis que l'Inde ne peut plus se fournir en pétrole iranien, fournit maintenant le double de ce qu'elle fournissait déjà à l'Inde. En plus, les pays du Golfe, bien sûr, sont dans la course. Ces pays ont, à travers l'organisation de la conférence islamique, voté une résolution condamnant, je cite, « l'islamophobie dont l'Inde faisait preuve ». Et Narendra Modi a dû se fendre le lendemain d'un communiqué disant que le virus n'avait pas de religion. C'était évidemment une réponse à cette menace ou à cet avertissement. Sera-t-elle suivie par d'autres mesures? Moi, ma crainte, c'est que si Modi n'a pas de relais dans l'État indien, qui est un État faible, il a à sa disposition un réseau considérable. Ceux qui sont derrière les émeutes dont votre reportage parle sont les parties prenantes d'une organisation, le RSS, qui est maintenant riche de plus de 2 millions de membres. Et toutes les opérations que l'on a appelées Love Jihad ou Land Jihad, lorsqu'il s'agissait d'empêcher les musulmans d'épouser des hindous ou de venir habiter dans des quartiers mixtes,
ont été initiés par ce réseau-là. Je voudrais peut-être passer la parole à Jean-Joseph Boileau, parce qu'évidemment, l'heure tourne et on a deux invités qui nous attendent, qu'on va bientôt prendre par téléphone. Mais je veux vous entendre, Jean-Joseph Boileau, et peut-être sur le versant du coup musulman, c'est-à-dire que effectivement, il y a cette islamophobie qui règne depuis longtemps maintenant du côté de l'Inde. Il y a ces violences anti-musulmans qui s'accentuent. Christophe Jaffrelot nous disait ces tensions, ces violences, elles se transforment, mais elles sont toujours là. Qu'est-ce que ça pourrait donner du côté des communautés musulmanes? Est-ce que il faut craindre que la colère tout à fait justifiée de cette communauté musulmane ne rejaillisse et voire même se radicalise encore plus? Et je vous demanderai, cher Jean-Joseph Boileau, une réponse relativement courte si possible.
Tout à fait. C'est très important parce que au travers de cette question des musulmans, on cible bien la démarche. Narendra Modi ne s'occupe ni de la santé, ni finalement de l'économie. Il a un agenda idéologique, point. Sur la question musulmane, il n'a pas eu besoin de s'en occuper parce qu'il a semé une petite graine qui a créé, comme le disait Christophe Jaffrelot, une véritable aujourd'hui bunkérisation des musulmans. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'inversement, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de résistance s'est exprimée de deux façons. Premièrement, dans le domaine médical, les groupes d'affaires musulmans, notamment le groupe Cipla, qui est le deuxième groupe pharmaceutique indien, ont reçu un soutien massif parce qu'ils sont à la pointe de la question sanitaire. Deuxièmement, il est suivi, soutenu par quelqu'un aussi important que Chetan Bhagat, qui est le grand romancier de la jeunesse indienne, qui a des millions de lecteurs, qui a tweeté il y a une semaine quelque chose d'exceptionnel en disant « Notre échec face au Covid, c'est numéro un, l'obsession du Pakistan et des musulmans ». Donc je pense que le prisme anti-musulman de Narendra Modi se heurte aussi à la dure réalité qui est que les gens font l'expérience que les musulmans souffrent effectivement beaucoup, ils sont à côté d'eux, il faut voir sur les routes. C'était ces centaines de milliers, ces millions de migrants qui rentraient chez eux se côtoyaient entre musulmans et non-musulmans.
On est avec vous, Jean-Joseph Boileau, et vous, Christophe Jaffrelot, dans cette série « Les sociétés face au coronavirus », quatre études de cas. Nous parlons ce matin de l'Inde et nous essayons de comprendre ce qu'il y a derrière le plus grand confinement du monde. On va s'intéresser dans quelques instants à la question de la santé publique en Inde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Couvre ta bouche avec ça. Ça va te protéger d'un virus qui s'appelle Corona et qui est en train de se répandre. Les principaux symptômes sont la toux et la fièvre. Ces masques sont très importants. Et nous essayons aussi d'obtenir des gants. J'espère les avoir très vite. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'eau pour se laver les mains. Et le savon ou le gel hydroalcoolique, ce sont carrément des produits de luxe pour eux.
Voilà, extrait d'un documentaire qui a été diffusé très récemment dans Envoyé spécial sur France 2. On va se pencher maintenant sur le système sanitaire indien, regarder ses principales faiblesses, tenter de comprendre justement les racines de cette faiblesse. Marine Aldadad, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, au Centre d'études des mouvements sociaux. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant, si vous voulez bien, pour commencer, sur la question des chiffres qu'on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure avec Christophe Jaffrelot, mais sur lequel je voudrais peut-être vous entendre, vous, parce que il semble que dans beaucoup d'autres pays, il y a évidemment, à cause de ce manque cruel de tests, des chiffres officiels qui sont probablement bien en dessous de la réalité. Mais ce qui semble aussi apparaître du côté de l'Inde, et là c'est plus original j'allais dire, c'est qu'il semble qu'il y ait vraiment une intention délibérée de minimiser les chiffres de morts par Covid. Qu'en est-il très concrètement? Quelles sont les informations qui reviennent justement du terrain et qui vont dans ce sens?
Alors, Christophe Jaffrelot l'a évoqué, il y a un problème au niveau des chiffres de santé publique. Il faut savoir qu'au niveau des morts du Covid, en fait, il y a peu d'enregistrements médicaux des décès en Inde déjà, même avant la pandémie. On a à peine 20% des décès en Inde qui sont certifiés médicalement. Il faut savoir que dans certains États, ça descend à moins de 5%, comme par exemple les États les plus pauvres. Donc on a déjà un enregistrement des décès naturellement qui est très faible en Inde. Mais il y a eu plusieurs controverses autour de sous-déclarations des morts enregistrées. Donc ça veut dire dans ces 20% de décès déjà, il y aurait eu des sous-déclarations. Très récemment, par exemple, le gouvernement de Delhi a été accusé d'annoncer en fait 15 fois moins de morts à Delhi en avril que ce que les hôpitaux avaient effectivement déclaré comme mort du Covid. Donc ça laisse penser qu'il y a effectivement de la sous-déclaration volontaire de ces cas-là.
Et puis évidemment, Marine Aldada, pardon, j'ai écorché votre nom tout à l'heure, le principal problème de ce système sanitaire indien, c'est qu'il est très largement sous-financé. C'est, alors là encore, c'est des chiffres, peut-être qu'ils sont pas tout à fait exacts, mais c'est 3,7% du PIB que l'on consacre au système sanitaire. C'est beaucoup moins que, si on regarde par exemple la France, c'est un tout petit peu plus de 10%. Donc on voit que le principal problème en Inde, c'est le sous-financement. Mais là, il faut regarder peut-être aussi dans le détail et faire la différence entre le système privé et le système public. Parce qu'on a vu assez rapidement, au début de la pandémie, une forme d'effondrement sur lui-même de ce système hospitalier public.
Oui, donc le système de santé indien est un des plus sous-financés du monde. On n'est même pas à 3% du PIB, on est plutôt à 1,3% pour l'année 2018. Il faut savoir que c'est inférieur à beaucoup de pays, y compris des pays d'Afrique subsaharienne. L'Inde est le dernier pays parmi les BRICS en matière de financement de la santé publique. Elle s'appuie, le système de santé indien s'appuie effectivement à la fois sur le public et le privé. Le privé, c'est 60% des lits en Inde. Mais il se trouve que si le ministère de la Santé a appelé les hôpitaux privés à venir en gros renforcer et participer à l'effort national de lutte contre la pandémie, la majorité des hôpitaux privés, presque 80%, ont décliné l'invitation et n'ont pas souhaité prendre en charge des patients atteints du Covid, voire même ont fermé leurs portes et refusé l'admission de tout patient, même ceux qui présentaient pas les symptômes du Covid. Donc il y a très peu d'hôpitaux privés qui sont rentrés dans l'effort pour prendre en charge les patients pendant cette pandémie. C'est surtout des très gros hôpitaux privés multispécialistes dans les grandes villes et qui vont faire payer le coût de cette prise en charge et cette hospitalisation très fort aux différents patients.
Il y a les hôpitaux, il y a les gros hôpitaux, Marine Aldada, mais il y a aussi tout un réseau, et en particulier dans les zones rurales, de travailleurs de santé de proximité. Mais là aussi, visiblement, il y a eu un effondrement un peu général de ce système qu'on trouve en particulier dans les zones rurales. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre question pour poursuivre un tout petit peu, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à tout ça? Tout à l'heure, on a parlé du plan de relance de Modi. Est-ce qu'il a prévu des choses pour lutter contre cet effondrement du système de santé, pour permettre à son pays de répondre à ce défi de la Covid?
Alors, au niveau du système de santé communautaire, donc dans les villages, effectivement, il y a eu un très gros problème. C'est que les travailleurs de santé communautaire sont des travailleurs sous-payés. La plupart n'ont pas de salaire. Ils sont payés à l'acte avec des méthodes d'incentivisation des travailleurs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a demandé d'être au front pour identifier les cas, les faire remonter dans les différents hôpitaux, et qu'il y en a beaucoup qui ont dit « je ne suis pas équipé, je n'ai pas de salaire, et surtout, je ne suis pas couvert si jamais je tombe malade ». Donc, une des seules réponses qui a été apportée par le gouvernement Modi pour un peu protéger, ou en tout cas inciter les travailleurs de santé à aller assurer leur poste en milieu rural notamment, ça a été de mettre en place une assurance spéciale Covid-19 qui était censée couvrir 220 000 travailleurs de santé en Inde, y compris ces travailleurs de santé communautaire. Cette couverture, il s'était révélé qu'en fait, elle était en place pour 90 jours à partir du 30 mars, mais surtout qu'elle ne couvrait que le décès. En cas de décès des personnels de santé, leur famille toucherait une aide financière, mais par contre, il n'était pas question, et il n'est toujours pas question, que ces travailleurs de santé soient couverts pour les besoins qu'ils auraient de soins en cas de maladie du Covid. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, que les travailleurs de santé ne soient même pas couverts en cas de maladie.
Ce fonds dont vous parlez, c'est un fonds qui a donc été décidé à l'échelle fédérale. Peut-être pour une toute dernière question, et puis ensuite je ferai réagir nos autres invités, pour comprendre bien cette disparité entre les territoires dans ce système sanitaire. Si on regarde un cas très particulier qui est celui du Kerala, tout à l'heure Christophe, Jean-Joseph Boileau nous disait l'état du Kerala, on est sur un état qui est gouverné dans la tradition communiste indienne. S'agissant précisément de cet état-là, est-ce que on arrive mieux justement à répondre à ce défi sanitaire? Est-ce que le système sanitaire au Kerala tient mieux que dans le reste du pays?
Oui, bien sûr, le Kerala est un très bon exemple puisque c'est un modèle à part en Inde avec un système hospitalier et éducatif qui est très avancé, bien plus égalitaire, bien plus financé que dans le reste du pays. C'est vraiment un état qui a bien géré l'épidémie, alors même qu'ils ont eu beaucoup de migrants internationaux qui sont venus atterrir au Kerala au début de la pandémie. Il faut savoir qu'ils ont eu 5 morts pour 36 millions d'habitants. Et en fait, il y a une stratégie qui a été mise en place, notamment une surveillance rigoureuse au niveau des districts avec des équipes, avec des médecins, des personnels soignants, des fonctionnaires qui ont été réquisitionnés, qui ont travaillé dans des cellules, qui ont surveillé les contacts, les patients, qui ont fait, c'est l'État qui a mis en place le plus de tests en rapporté à sa population. Il y a eu vraiment une politique de santé publique très forte qui a pu s'appuyer sur un système de santé qui est beaucoup plus efficace que dans beaucoup d'autres États indiens.
Christophe Jaffrelot, Jean-Joseph Boileau, pardon, une réaction sur ce système sanitaire indien. Jean-Joseph Boileau, réaction libre.
Oui, je trouve ça très intéressant parce que, vous voyez, on commence par un bilan extrêmement négatif, dramatique, et d'un autre côté, on dit « Ah ben oui, mais il y a le Kerala. Ah, c'est fantastique, et le modèle du Kerala est un modèle mondial. » Je crois que notre discussion
c'est,
est...
C'est pas tout à fait ce qu'on avait, pas tout à fait ce qu'on a dit, mais c'est comme ça que vous l'avez interprété, visiblement.
Non, non, notre experte commence par un bilan catastrophique.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
En réalité, la réalité indienne, c'est, il faut expliquer ce paradoxe de la résilience de l'Inde dans la crise du Covid-19. Il faut bien l'expliquer, n'est-ce pas? Et on ne peut l'expliquer que lorsqu'on arrête de se focaliser sur simplement Modi, le gouvernement fédéral, le public, et qu'on regarde l'autre Inde. Qu'est-ce qui explique la résilience aujourd'hui face à cette crise du Covid-19? Sur le plan sanitaire, je parle uniquement, c'est que le 1,5% du PIB en dépenses publiques, vous devez y rajouter 4,5% à peu près de dépenses qui sont des dépenses privées. Dans ces dépenses privées, vous avez des dépenses privées, notamment de tout un secteur informel, charitable, ce qu'on appelle, hein, des charity trusts, etc. Et deuxièmement, la spécificité de l'Inde, c'est cette capacité d'innovation frugale. De sorte que les masques, l'Inde n'en a pas manqué, elle, du tout. Ils se sont mis tout de suite à produire des masques. Les respirateurs, les Indiens ont sorti des respirateurs à moins de 1000 euros. Les médicaments, il faut revenir sur cette question des médicaments. La chloroquine en France ne cesse de faire parler d'elle. En Inde, on n'en parle pas parce qu'on la prend tout simplement. Quatrièmement, les vaccins. L'Inde est sur les starting blocks et elle va sortir effectivement des vaccins d'ici la fin de l'année. Donc il y a cette dualité, vous voyez, de l'Inde qu'il faut absolument prendre en compte pour comprendre la résilience d'un système de santé face à quelqu'un qu'il faut reconnaître, bien sûr, au niveau du gouvernement central, fait preuve d'incapacité.
Il faut rappeler, Jean-Joseph Boileau, que l'Inde est le premier producteur de médicaments génériques au monde. Christophe Jaffrelot.
Oui, le Kerala, hélas, est un cas très isolé. Et il n'est pas dans le sens de l'histoire. C'est évidemment symbolisé par le déclin du Parti communiste indien qui n'a plus guère que ce réduit kéralais à gouverner. Ailleurs, partout ailleurs, et c'est vrai des États gouvernés par le Congrès aussi, l'heure est à la réduction des dépenses publiques. Dans un contexte d'ailleurs, on ne l'a pas suffisamment dit, de déficit budgétaire chronique, si on ajoute le déficit du centre, celui des États et celui des entreprises publiques, on est à 10% du PNB. C'est la raison pour laquelle le package de relance que Modi a annoncé est aussi ridicule ou en tout cas dérisoire. C'est que les marges de manœuvre sont tout à fait limitées. Donc, plutôt que d'aller dans le sens que le Kerala indique comme étant la bonne direction, on réduit les protections sociales, on réduit les dépenses publiques. Alors c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation. Et c'est l'un des grands goulots d'étranglement que l'Inde rencontre aujourd'hui. Même pour attirer des entreprises manufacturières, il faut avoir une main d'œuvre à un minimum qualifiée et éduquée, et elle ne l'a pas. On est quand même, je pense, face à un défi sans précédent. Mmh. L'Inde va sans doute vivre, après ce coronavirus, un temps qui sera comparable à celui qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, qui a été, on l'a oublié, aussi dévastatrice pour l'Inde. Reconstruire cela sur les bases de cette privatisation de la santé, de l'éducation, comme on s'y apprête, eh bien, c'est continuer et persévérer dans une voie qui est sans issue.
Merci beaucoup en tout cas à Marine Aldada qui a été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous êtes sociologue et chargée de recherche au CNRS. On va parler maintenant des travailleurs migrants, ceux qui ont été jetés sur la route au moment de l'annonce, surprise, du confinement. On va retrouver tout de suite David Pichery depuis Pondichéry. On a réussi à faire la liaison. Bonjour David Pichery.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et membre de l'Institut français de Pondichéry où vous êtes en ce moment même. Avant de comprendre qui sont ces travailleurs migrants et les logiques migratoires qu'il y a derrière tout cela, il faut dire un mot sur les images qu'on a vues malheureusement assez nombreuses de travailleurs qui se faisaient violenter par la police, certains se faisant asperger de produits chimiques de peur qu'ils ne propagent le virus. C'était quoi ça? C'était des dérapages, c'était marginal, où il y a clairement eu une systématisation de la violence à l'égard de ces populations qui rentraient chez elles, en fait. David Pichery.
Oui, alors, je crois que ce sont des logiques très anciennes, en fait. Et puis, c'est un des seuls modes d'intervention de l'État dans la gestion des migrants. Ce qu'on a pu voir ces deux derniers mois, ça a été la police et puis le bâton. Ce qui surprend, c'est la médiatisation, la visibilité donnée à des migrants, alors que ce sont des logiques qui sont quotidiennes en fait dans la gestion migratoire. Et moi, il me semble que de toute manière, le gouvernement n'a pas pensé la question des migrants. Et même s'il l'avait pensé, il ne peut pas le faire parce que il repose sur un État qui historiquement ne soutient pas les migrants en fait. Donc c'est un État qui n'applique pas les lois du travail, qui fait en sorte qu'on ne contrôle pas les entreprises, qu'on ne contrôle pas les conditions de travail. Il y a une invisibilité statistique. Mmh. On ne produit pas de statistiques sur les migrations. Donc là, on se retrouve avec une situation très complexe, mais qui ressort, qui repose sur des mécanismes plutôt structurels en fait.
J'entends David Pichery cette idée selon laquelle, au fond, leurs conditions seraient telles qu'elles sont depuis longtemps, que ces mobilités de travail existent depuis longtemps, que ce phénomène d'invisibilisation, au fond, de ces populations existe également depuis longtemps. Mais le fait de voir ces dizaines de millions, quand même, de personnes jetées sur les routes, ça a quand même dû produire un effet chez les responsables politiques, et en particulier chez Modi. Et d'ailleurs, il a parlé, alors sans dire exactement les travailleurs migrants. En tout cas, il les a évoqués dans son dernier plan de relance. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend un peu plus conscience de leur existence, de leurs conditions de vie? Est-ce qu'on va les aider à subvenir à leurs besoins? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de travail, donc ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ils sont pour beaucoup rentrés chez eux, mais enfin, comment vont-ils vivre?
Alors là, c'est une question très importante. Autant ceux qui restent en ville, on voit aujourd'hui, par exemple, des travailleurs qui ont été frappés par des employeurs dans la région de Coimbatore, dans le sud, parce qu'ils cherchaient à rentrer chez eux. Donc là, la question, ça va plutôt être de les laisser, de les retenir, et l'État va travailler à ça certainement. Ce qu'on voit de manière générale, ce que ça a pu provoquer, c'est plutôt une mobilisation d'une partie de la société civile, mais avec des distributions de nourriture. Mais la première réponse, c'est la suspension du droit du travail ou la refonte du droit du travail. Donc, je crois pas qu'au-delà de l'émotion suscitée par ces images, il y ait de véritables transformations, puisque on le sait, le gouvernement le sait, ces travailleurs sont indispensables au fonctionnement de l'économie telle qu'elle est orchestrée aujourd'hui. On sait que l'économie informelle a été en pleine expansion ces 20 dernières années. Donc, je ne crois pas que ce soit une découverte. Il y a certainement une découverte pour certains, mais il ne faut pas oublier que ce sont ceux qui découvrent aujourd'hui cette classe moyenne qui s'indigne. Ce sont eux qui font laver leur voiture, qui ont des domestiques. Enfin, donc, on n'est pas surpris complètement. Il me semble que c'est le choc, la violence véritable mise à nu. Enfin, on a bien vu que la seule intervention de l'État pendant un mois, ça a été les violences policières. Enfin, ça a été la seule interaction avec l'État.
Oui.
Et la vraie difficulté aujourd'hui, ça va être le retour des migrants dans les villages avec une économie agricole qui ne va pas être capable d'absorber ces travailleurs. Et donc, ça risque de poser énormément de problèmes puisque les économies villageoises et les économies urbaines aujourd'hui sont extrêmement imbriquées. L'économie des villages dépend des ressources apportées par les migrants. Et ce sont des fonds qui vont se tarir, évidemment. Mais il y a une urgence à laquelle ne répond pas le gouvernement. C'est-à-dire, il s'agit tout simplement aujourd'hui, après 2 mois de confinement, il s'agit de manger.
Merci beaucoup, David Picherie. On a compris l'essentiel. La liaison est pas parfaite, mais on a bien compris l'essentiel de votre propos. Jean-Joseph Boileau, peut-être un dernier mot sur ce point-là, parce que c'est vrai que là, le gouvernement a un défi devant lui, parce qu'il y a une possible catastrophe sanitaire dans les zones rurales, il y a la nécessité évidemment de relancer l'économie, et bien sûr que ces travailleurs migrants sont indispensables pour relancer la machine, en particulier dans les grandes villes. Quel est le plan de Modi, là, Jean-Joseph Boileau ?
La symbolique des migrants est très importante, comme toujours, en réalité, comme il nous l'a dit tout à l'heure, c'est des images qui ont choqué. La vraie question qui se pose, c'est de savoir maintenant si on va faire un ajustement par le bas ou par le haut. C'est-à-dire, est-ce qu'on va intégrer l'ensemble de ces travailleurs, donc 400 millions à peu près, hein, dans un système qui est relativement protecteur, etc., le fameux compromis de 1948 entre Nehru et Gandhi, ou est-ce qu'on va faire un ajustement par le bas, ce dont je parlais tout à l'heure à propos du thatchérisme et du réganisme. Clairement, de le texte que j'ai pu lire là sur les différentes mesures qui sont envisagées, on va faire un ajustement par le bas, notamment dans le domaine salarial et de l'environnement. L'effet économique est évident. Comme pour la démonétisation, c'est un désastre économique qui va se profiler, d'où les interventions des grands patrons indiens qui sont tout à fait opposés à ça, notamment cette très très belle expression, on ne construit pas une économie de classe mondiale avec des politiques du travail du 19e siècle. Ça c'est Rajiv Bajaj, il faut le faire de sortir cela quand même. Hein. Donc c'est ce qu'il faut craindre, mais là encore je le répète, Modi s'en fout, s'en moque. Le problème pour lui pour l'instant c'est son agenda idéologique, ce n'est pas du tout l'agenda économique.
Merci beaucoup à nos invités. David Picherie qui était avec nous en direct par téléphone de Pondichéry. Un grand merci également à Jean-Joseph Boileau et à Christophe Jaffrolo qui nous ont accompagnés depuis une heure maintenant pour nous éclairer sur la situation du côté de l'Inde. Vous parliez d'ailleurs, Jean-Joseph Boileau, de la question du travail. Eh bien, le droit au travail, le droit du travail, on en parlera à nouveau la semaine prochaine puisqu'on fera une série sur le droit à l'épreuve de la Covid. Encore un tout dernier mot pour vous dire que demain, pas de Culture Monde. On est encore en mode déconfinement, en tout cas s'agissant du vendredi. En attendant, Vaclav Havel, un documentaire de Christine Le Serre, réalisé par Charlotte Roux. Ça, ce sera demain à 11h, donc on se retrouve, nous, lundi.